Cœur Club, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Christophe Maury.
Oui, alors bonne fête à tous les Cyrils. Ce matin, nous allons au Petit Palais, où une grande rétrospective est consacrée à Théodore Rousseau, intitulée « La voix de la forêt », ce peintre rebelle qui s'isolera à Barbizon, qui est né en 1812 et mourra à 55 ans. Donc à Barbizon, en 1867. Rien à voir avec le douanier Rousseau, j'y suis allé comme disant Rousseau, mais pas du tout. Et Théodore Rousseau, et ce peintre assez incroyable, assez rebelle, parce qu'il avait été refusé pendant 13 ans, c'est ça ? Il a été refusé des salons. Stéphane Covio qui fait visiter l'exposition sur Venez et Voyez, il faut s'inscrire sur le site et vous allez nous en parler. Et puis Guillaume Sébastien, vous allez nous en parler aussi, parce qu'avec vos yeux aguerris de galeriste et de conteur, vous allez pouvoir nous parler enfin de Théodore Rousseau. Alors l'arbre est loin de n'être qu'un symbole, il est vraiment la vie. Et c'est ce à quoi on assiste dans cette exposition. Guillaume Sébastien.
C'est un nouvel artiste sur lequel que met en lumière le Petit Palais. Il y a une politique du Petit Palais ces dernières années.
Ils sont très forts.
De nous montrer des artistes peu connus. Donc, Théodore Rousseau, c'est un artiste qui est assez connu, mais dont on voit des œuvres qui sont un peu éparpillées au Louvre, à Orsay, dans des musées en province aussi. Donc, c'est une bonne surprise, c'est une belle surprise de pouvoir voir cette exposition en grand. Alors, elle n'est pas si grande que ça.
Non.
Elle a lieu au sous-sol du Petit Palais. Moi, j'ai trouvé les tableaux magnifiques, mais j'étais un petit peu déçu par le sujet, ou en tout cas ce qui est annoncé quand on... Vous savez, au début de l'exposition, ouais, il y a un grand panneau qui explique vous allez voir ceci, et le propos de l'exposition. Ouais. Et le propos de l'exposition, c'est notamment de dire que Théodore Rousseau est un artiste révolutionnaire, c'est un mot qui est employé par les commissaires, singulier, et donc il faut lui redonner toute sa place dans l'histoire de l'art. Pour ma part, quand je suis sorti d'exposition, j'étais un petit peu sur ma faim. Je trouvais que l'exposition était très intéressante, très belle, mais je n'ai pas compris, ou j'ai mal compris, ou je n'ai pas su voir, en tout cas dans l'exposition, pourquoi Théodore Rousseau était un artiste révolutionnaire.
C'est moins voilà. Révolutionnaire qu'un solitaire, finalement.
Ouais.
Alors, il y a quand même des éléments à apporter à cette question. Théodore Rousseau, d'abord, c'est un réaliste.
Oui.
Et c'est un pionnier du paysage réaliste en France, à un moment où, au début du 19e siècle, on insiste sur la notion de beau idéal. Et là, il vient avec une âpreté de la réalité face au public. Et c'est quelque chose qui, déjà, ne plaît pas à une partie du goût français.
Une question naïve, il est antérieur à Corot ?
Il est plus jeune que Corot. Ils se sont connus. Corot a vécu à Barbizon pendant un temps.
Oui.
Il connaissait très bien l'œuvre de Corot. Hein.
Ah oui, parce qu'il y a certaines peintures, on se dit, on est devant un Corot.
Mais c'est le cas. Et donc il y a le réalisme qui est nouveau de sa part. Et puis il y a des choix de motifs. Par exemple, Pierre-Henri de Valenciennes, qui est un des grands paysagistes français, qu'on appelle le paysage historique, et d'autres aussi, considéraient que... D'ailleurs, il poussait les élèves à aller en forêt de Fontainebleau pour peindre, parce que là, il y avait des très beaux motifs d'arbres, et pas seulement d'arbres. Et il disait, mais attention, il faut choisir des motifs, entre guillemets, pittoresques, voyez, avec de la grandeur, avec des choses comme ça. Et Théodore Rousseau, il va choisir des motifs qui paraissent trop ordinaires à certaines personnes. Par exemple, il y a au début de l'exposition un tableau qui m'a semblé immédiatement magnifique. Et j'ai découvert en lisant le catalogue qu'en fait, à l'époque, il n'avait pas été bien reçu. C'est une clairière, c'est une colline avec des arbres, une forêt qui est au sommet de la colline, un petit village en contrebas devant. Et on voit très bien les troncs des arbres qui sont nus jusqu'au sommet, où seulement le feuillage n'est qu'au sommet. Ce qui montre qu'en fait, on avait abattu des arbres avant. Sinon, les arbres ont des branches beaucoup plus bas et on a un feuillage qui couvre ces fameux troncs. Et ça n'a pas été considéré comme un beau motif, un motif trop ordinaire. Et pourtant, le tableau est somptueux. Moi, je suis resté à le regarder, j'ai trouvé ça mais absolument magnifique. C'est un tableau que je n'avais jamais vu. Je ne sais pas dans quel musée il est. Tout à l'heure, vous évoquiez Orsay, province. Mais il y a pas mal de tableaux qui viennent de l'étranger, parce que Rousseau a été collectionné hors de France.
Et de collections privées.
Tout à fait. Il y a des Rousseau au Danemark, dans les pays du nord de l'Europe. Il y en a aux États-Unis, il y en a en Russie. Voilà, une première réponse à la question de l'aspect révolutionnaire de son travail.
Oui, alors moi je pense que c'est plutôt, ce que je disais, un solitaire, parce qu'il part seul dans la forêt.
Je pense que, en fait, il faut d'abord parler de la vie de ce Rousseau, oui, pour justement trouver des éléments qui expliquent pourquoi il est révolutionnaire. Donc, il est né en 1812. Oui. Il était l'enfant unique d'un couple qui venait de l'est de la France, du Jura. Donc, il était très marqué dans son enfance par la visite d'une scierie. Donc, c'est vrai que la forêt l'a beaucoup marqué. Et puis, au bout de quelques années, eh bien, ses parents se sont aperçus qu'il avait vraiment la fibre artistique. Donc il a commencé à faire des études et auprès d'un professeur qui était académique. Voilà, donc il n'a pas du tout aimé ça. Il s'est profondément ennuyé. Donc
il
ça a été une première.
Hein.
C'est vrai que ça a été une première rupture, oui, ça. Et puis il est parti. Effectivement, c'était un solitaire, comme vous disiez. Donc il est allé. Donc il n'a pas aimé cette peinture académique parce qu'il voulait peindre la nature pour elle-même. Or, la nature était un sujet, et plutôt en fond, était le fond de thèmes mythologiques, notamment. Et donc, lui, il a voulu peindre la nature pour elle-même. Donc, il est allé à la source, il a commencé à voyager en France. Ça ne devait pas être facile d'aller voyager en Auvergne,
par exemple.
Il est allé en Auvergne tout seul. Donc, l'Auvergne, c'était loin, sans doute, à l'époque. On était seul avec son matériel de peinture. Et puis, assez tôt, après Corot, je crois, il est allé à Barbizon. Donc, il a été l'un des premiers artistes. Donc,
mais ça, il n'y avait qu'une seule rue à Barbizon.
Il était cofondateur de l'école de Barbizon. Donc, il a été précurseur. Donc, en ce sens-là, oui, il a été effectivement un révolutionnaire dans sa vie et dans son approche du métier de peintre.
Et alors, pour donner un peu une touche musicale pour mieux comprendre, puisqu'à la radio, on ne peut pas voir les tableaux, eh bien, imaginez-vous qu'en 1867, lorsqu'il meurt, Camille Saint-Saëns écrivait ceci. Reconnu l'introduction au Rondo Capriccio de Camille Saint-Saëns. Il était interprété par Tanja Sonck au violon et le Philharmonique de Slovénie qui était conduit par Kerilyn Wilson. Ça a été écrit au moment de la mort de Théodore Rousseau et je trouvais qu'il y avait ce côté solitude dans la forêt qui était bien, bien trouvé. Stéphane Covio, qu'est-ce qui vous a sidéré dans cette exposition?
Alors, j'ai beaucoup aimé cette exposition.
Oui.
Je l'ai beaucoup attendue aussi. Et je craignais, je me disais, qu'est-ce qu'il va y avoir? Est-ce que je craignais qu'il n'y ait que les œuvres que je connaissais déjà, c'est-à-dire celle d'Orsay et celle du Louvre? Eh bien, pas du tout. Il y a beaucoup d'autres choses. J'y ai découvert des Rousseaux que je ne connaissais pas, notamment des Rousseaux de jeunesse, des petits paysages.
Les petits formats sont formidables.
Magnifiques petits formats d'entrée,
oui,
avec des vallées dans les Alpes, dans le Dauphiné, dans des endroits comme ça. J'y ai découvert des œuvres d'ampleur historique de Rousseau. on a au Louvre une des œuvres historiques dont on reparlera tout à l'heure, l'allée de Châtaignier, qui est devant un château là où qu'il a fréquenté dans le Poitou. Il y a la chaîne des Alpes avec le Mont Blanc vu du col de la Faucille. C'est une œuvre mythique de Rousseau des années 34-35 qui est aujourd'hui à Copenhague. Il y a les esquisses de la descente des vaches, qui est aussi une œuvre mythique de Rousseau, qui se trouve aujourd'hui au musée Metz-Dag. Il y a une esquisse à Amiens, il y a une esquisse au musée Metz-Dag. L'original n'est pas déplaçable pour des raisons dont on parlera. Il y a des petits formats dans la deuxième ou la troisième salle, magnifiques,
magnifique.
Des tableaux franchement de collectionneurs.
Moi, le lac de Malbuisson en 1831, ou encore il y a le paysage avec coucher de soleil orageux de 1844, qui sont absolument somptueux, mais qui sont pas grands, mais vous pouvez rester devant et votre regard part à l'infini.
Ah, ça, c'est des petites choses très belles, des tableaux de jeunesse qui sont au tout début. Et puis, dans la deuxième ou la troisième salle, il y a des petits formats dont on parlait avec Guillaume tout à l'heure en antenne, avec des scènes sombres, des scènes d'orage, des mauvais temps, avec des contrastes.
Quatre tableaux.
Voilà, quatre petits tableaux. Franchement, les quatre, je les voudrais chez moi. Avec des contrastes forts entre des morceaux de ciel lumineux, d'autres ciels, morceaux très foncés, des arbres en dessous. Pas mal peint en manière d'esquisse aussi, c'est-à-dire avec pas mal d'énergie là-dedans, des très belles choses. Et puis, il y a toute une série d'œuvres le long du parcours, notamment des œuvres qui sont dans un état d'inachèvement, qui est en fait un état d'achèvement pour lui. Il y a quelque chose d'assez complexe.
Il a du mal à achever, hein. Alors, le dit lui-même.
Clairement, il fait partie des artistes qui ont un problème avec l'achèvement des tableaux.
Ouais.
Comme Degas, comme celui qui a son hôtel particulier là, dans le 8e, 9e arrondissement. Là.
Ils y étaient tous.
Voilà, bref, par là. mais il y a aussi des tableaux...
Parce qu'il part en plein air, il revient à l'atelier pour terminer, et quelquefois, il ne termine jamais.
Voilà, c'est ça. Mais alors, il ne peut pas peindre tout en plein air, vu la manière qu'il a de peindre. C'est-à-dire une peinture extrêmement fouillée. Les tout petits, ça peut être fait 100% en plein air, mais les autres, non. Et puis, c'est un peintre qui a besoin de revenir, et parfois, ça va jusqu'à gâcher le tableau. C'est ce qui s'est passé avec la descente de vache, qui est aujourd'hui au musée Metz-Dag, et ce qui s'est passé aussi... avec la fameuse allée de Châtaignier, dont j'ai commencé à parler tout à l'heure, qui est un tableau qui est très bien exposé dans l'exposition, mieux qu'il ne l'est habituellement au Louvre. C'est la chance qu'on a parfois dans des expositions de mieux voir un tableau. Et c'est un tableau très étonnant par son format. C'est un rectangle allongé. Il a les bords supérieurs qui sont arrondis. Et en fait, c'est une allée très large de Châtaignier, mais qui fait comme une voûte. Et cette voûte est très sombre et elle devient très très noire. C'est un tableau pour lequel il a utilisé du bitume et donc ça s'est obscurci avec le temps, ça s'est craquelé. C'est un tableau qui pose pas mal de problèmes de conservation et c'est un tableau qui a une histoire étonnante parce que quand il l'a peint, le tableau, il ne voulait pas le présenter. C'était suite à de très nombreux refus qu'il avait eu au salon. Finalement, Georges Sand, qui l'aimait bien, Delacroix, qui l'aimait bien, ont organisé un dîner chez Georges Sand avec la femme du ministre des Beaux-Arts de l'époque pour que l'État achète le tableau. L'État a accepté d'acheter le tableau et du coup Rousseau l'a présenté au salon et le salon l'a refusé. Et il s'est dit, vous voyez le comble. Donc Rousseau a dit, ben, à ce moment-là, je ne le vends pas à l'État, je le garde pour moi, je ne vais pas le vendre à des gens qui n'aiment pas mon tableau. Et il l'a vendu après dans le marché.
C'est l'histoire de Claude Lantier par Zola, sauf qu'il ne suicide pas.
Voilà. Hein. Donc, et on a ce tableau avec cette histoire impressionnante qui l'accompagne. On a des photos du tableau qui datent de l'époque où la voûte d'arbre descend beaucoup moins bas, donc une grosse trouée de lumière. Et on voit à quel point il l'a rechargé en peinture pendant un certain temps jusqu'à ce qu'il s'en... qui sont libères quelque temps.
Pourquoi
plus tard.
Les tableaux sont difficilement transportables?
Alors, c'est à cause des problèmes de craquelure, de fragilité.
Ouais.
La grande descente des vaches, c'est un tableau très haut, je ne saurais pas combien, peut-être 2 mètres de haut, qui se trouve à Amsterdam. Il n'est pas transportable. Donc, des esquisses ont été transportées. Et d'ailleurs, les esquisses sont très intéressantes.
Alors, justement, l'un et l'autre, est-ce que vous n'avez pas été marqué par les coups de crayon, par les dessins incroyables de Forêt?
C'est très intéressant. Oui, c'est vrai. Oui, les dessins sont très très beaux et on dirait des sortes de négatifs des peintures.
Oui.
Vous voyez, c'est ça qui m'a. J'ai trouvé ça tout à fait étonnant, c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs dessins à proximité des peintures et on avait l'impression que les dessins, comme dans la photographie, sont des négatifs. Il faut quand même dire à nos auditeurs que on voit dans l'exposition des paysages. Théodore Rousseau est un paysagiste.
Ah, il n'y a pas une joue.
Donc,
hein.
On disait qu'il... voilà,
il n'y a pas un regard, il n'y a pas une joue, il n'y a pas une oreille.
Il peint la nature pour elle-même, oui. Et que cette nature est une nature magnifiée, énorme. Il y a une disproportion entre la nature, les arbres, et puis les quelques personnages,
mais on n'est pas
les
dans
animaux.
Le romantisme allemand non plus.
Non, c'est vrai. Mais donc on a cette nature qui est très puissante, qui couvre, qui encercle, qui n'étouffe pas. Donc il y a une grande harmonie entre cette nature protectrice et puis les quelques paysans que l'on voit en tout petit sur les tableaux et les animaux. Moi j'étais frappé parce que l'exposition montre surtout Théodore Rousseau qui est un peintre de la forêt. Donc on voit des tableaux où il peint la forêt. On est à l'intérieur de la forêt de Fontainebleau, donc c'est très sombre, mais il y a toujours, même dans ces tableaux, j'ai senti une lumière quand même qui transperce, une lumière qui est très forte dans ces paysages à l'extérieur des forêts. Les ciels de Théodore Rousseau sont magnifiques, sont extrêmement lumineux, mais même à l'intérieur des forêts, on sent qu'il y a une lumière quand même qui est très présente.
Alors, il y a une toile qui s'appelle Le Massacre des Innocents, où on voit des arbres qui sont abattu, et en 1852, Rousseau avait quand même écrit au duc de Morny, qui était à ce moment-là ministre de l'Intérieur, pour demander que l'on mette à l'abri des coupes intempestives un certain nombre de modèles et un certain nombre de lieux, et que on les sacralise d'une certaine façon, on les sanctuarise, voilà, pour éviter qu'on abîme la forêt. Donc il est allé jusqu'au ministre de l'Intérieur, enfin, pour expliquer son désarroi devant ce massacre des innocents que l'on peut voir.
Et là, c'est un de ces au fait, parce que c'est la première création d'une réserve naturelle au monde. Il a obtenu ça, et c'est amusant parce que ça a été appelé réserve artistique, parce que c'est au motif que c'était une réserve de motifs artistiques de première qualité que la forêt était préservée. Rousseau ne supportait pas qu'on abatte des chênes et qu'on les remplace par des pins. Actuellement, s'il y a des pins en forêt de Fontainebleau, c'est qu'ils ont été replantés après des abattages d'autres essences d'arbres. Et là, il était contre cette dénaturation. Il y a quelque chose de très particulier sur Rousseau, dont il faut absolument que nous parlions. Vous l'avez évoqué avec cet aspect de ce peintre solitaire. Je vais vous lire quelques lignes qu'il a écrites à Théophile Thoré. « Le silence est d'or. Je suis à mon observatoire de Bellecroix et je n'ose bouger. Car le silence m'ouvre le cœur des découvertes. La famille des bois se met alors en action. C'est le silence qui m'a permis, immobile que j'étais, comme un tronc d'arbre, de voir le cerf à son gîte et à sa toilette. Celui qui vit dans le silence devient le centre du monde. » Ce qui est très particulier avec Rousseau, c'est que c'est un réalisme quand on voit ces tableaux, on sent aussi la qualité de l'attention qu'il avait face à ce motif. C'est un homme qui est dans une très très grande attention. Il est totalement imprégné de son motif par cette situation qu'il décrit, je trouve, avec beaucoup de talent, là, dans cette lettre qu'il écrit. On sent vraiment cette unité qui se fait entre lui et le bois, l'arbre qui est en face de lui. Tout à l'heure, vous évoquiez des dessins. Il y a une plume, il y a un dessin à la plume de quelques arbres, à peu près à la fin du deuxième tiers d'exposition, mais qui est éblouissant. On y voit l'écorce d'un chêne, on y voit la structure particulière d'une branche. Je ne sais pas si vous avez déjà observé les chênes, c'est particulier. Souvent, le tronc est bien droit, mais les branches sont totalement tortueuses. Oui. Et il suit avec une précision très grande la moindre circonvolution de branche, et il en vient à posséder. Je trouve qu'il y a une identification à l'écorce quasiment du personnage dans ses motifs.
Guillaume ?
Oui, moi, quand j'ai vu ces tableaux, ça m'a bien sûr fait penser à Baudelaire, au poème Correspondance, La nature est un temple, enfin, qui est de 1857. Donc, on a vraiment cette impression-là. Alors, Rousseau était solitaire, mais il a quand même. Il est très proche de Millet,
oui.
D'autres artistes qu'il a amenés.
Millet travaille la terre, et lui travaille les arbres.
Oui, c'est vrai.
L'un est très paysan,
Donc c'était un solitaire, mais qui a quand même organisé, qui a cofondé, on dit, cette école de Barbizon, qui a fait venir dans ce lieu où personne, aucun artiste ne venait, Corot avant lui, beaucoup d'artistes dans cette forêt, qui était une forêt vierge, et qui a finalement été exploitée. C'est contre ça aussi qu'il s'est...
Oui, parce qu'à partir de 1949, précisément le 12 août, seront créés les trains du plaisir qui vont emporter, porter et transporter les Parisiens jusqu'à la forêt de Fontainebleau.
Oui, et alors dans ces années-là, on va aussi créer des sentiers de randonnée, etc. Alors il apprécie pas du tout cette manière de transformer la forêt de Fontainebleau. Alors déjà l'industrie s'en est occupée, mais alors le tourisme, il est mort en 67, et c'est au moment où allait se développer cet aspect touristique de Barbizon. Il va y avoir des expositions de peinture à Barbizon même. Certains disent qu'il a eu la chance de mourir assez tôt pour ne pas avoir des choses qui lui auraient vraiment déplu.
Il aurait été furieux.
Vous évoquiez effectivement son aspect solitaire. Il est solitaire dans la forêt face au motif. Mais
absolument,
il n'est pas du tout solitaire dans la vie.
Non, mais il nous plonge dans la solitude devant ses toiles. C'est-à-dire que lorsqu'on est devant les arbres, on est seul.
Absolument.
Et même s'il y a du monde dans l'exposition, on est vraiment seul devant chaque toile. Et ça, j'ai été très étonné par ça, parce qu'il y a eu le mot... Bon, il est tombé, il y avait le mot écologique. Alors on a dit, ah oui, c'est le premier écolo, etc. Non, c'est pas le premier écolo, c'est un type qui voit les arbres comme des personnes. Et ça, c'est formidable, parce qu'on a les hommes qui marchent chez Shakespeare, on a on a l'arbre de la connaissance, on a l'arbre de vie, l'arbre est très présent dans la Bible, comme on le sait. Eh bien, l'arbre, mon ami, c'est ce que nous dit Théodore Rousseau. Et ça, je trouve que c'est tout à fait singulier. Et l'exposition, La voix de la forêt, c'est pas les voix de la forêt, c'est la voix de la forêt, je trouve qu'il est très bien trouvé.
Il y a quelque chose qui est très intéressant dans l'exposition, c'est la présence de la photographie. Dans une même salle, il y a des tableaux de Rousseau qui sont présentés, et en face, des tableaux d'un photographe qui s'appelle Eugène Cuvelier, donc qui prend exactement les mêmes choses qui intéressent Rousseau, c'est-à-dire des arbres, des rochers. C'était un ami de Théodore Rousseau, comme Gustave Le Gray, donc on est à un moment où il y a un très grand développement de la photographie. Et la question que je me pose encore, c'est comment justement ces artistes travaillaient-ils ensemble, de quoi discutaient-ils, qu'est-ce que Rousseau, qui est effectivement un peintre solitaire, qui se plongeait dans la forêt, que pensait-il de ces photos qui concurrencent d'une certaine façon. Oui, et voilà, j'ai trouvé ça très intéressant de présenter ces photos dans la même salle que des peintures.
Il y a aussi une chose importante dans cette expo, c'est que souvent on évoque Théodore Rousseau et les peintres de Barbizon comme un jalon vers l'impressionnisme. Là, ça permet de les voir à 100% pour eux. Alors effectivement, les impressionnistes ont en grande estime cette génération de peintres-là, dont évidemment Rousseau. Mais il y a vraiment des grandes différences entre ces deux générations de peintres. Par exemple, moi j'ai vraiment la sensation que les impressionnistes, ce sont des Parisiens qui viennent à la campagne. Ils fréquentent la forêt. Quand ils vont dans la forêt, c'est quand il fait beau, c'est des parties de campagne, c'est des pique-niques, c'est des choses comme ça. Rousseau, c'est pas ça. Rousseau, c'est la forêt avec une vision beaucoup plus âpre. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, des sous-bois. Il y a pas mal de tableaux qui s'appellent intérieur de forêt. Il va se concentrer sur une portion menue avec des morceaux de rochers, de la mousse. C'est l'endroit où les choses fourmillent, par exemple des bouts de mare. Il est fasciné, par exemple, vous avez déjà vu ça en vous promenant, des mares qui n'apparaissent pas comme très propres. On n'a pas envie d'aller s'y baigner du tout, mais en fait, on voit des végétations complexes à l'intérieur, de la mousse verte, etc. Et vous voyez, cette espèce d'endroit d'où la vie émerge, vous voyez, de manière complexe et riche, ça c'est des choses qu'il apprécie énormément. Et les impressionnistes, à mon avis, pas du tout.
Non, mais Barbizon n'est pas Auvers-sur-Oise.
Certes, non.
Voilà. Et moi, j'ai été frappé parce que par ces arbres qui n'ont rien d'anecdotique, qui sont vraiment, qui ont comme leur personnalité. Vous parliez des petits formats tout à l'heure. Ils sont bien plus intéressants que les grands formats. Hein.
Ah oui. Ça,
vous êtes
absolument
d'accord avec moi.
Ça, j'étais frappé. Il y a quelques très grands formats dans l'exposition.
Oh,
et je trouve qu'effectivement, Rousseau est bien meilleur sur les petits formats.
Ah, ouais.
je reviens sur ces premiers tableaux que l'on voit dans la première salle, des tout petits tableaux de paysages. Il a à peine 20 ans quand il fait ça. Et oui, j'ai trouvé qu'effectivement, le Rousseau excellait dans les petits formats, qui sont d'ailleurs son format plutôt habituel. Et bon, c'était un peintre de plein air, donc c'était.
Mais comme je viens de faire bondir Stéphane Covio sur les grands formats en disant qu'il y avait quand même des ratés, je crois qu'il faut que je m'inscrive à Venez et Voyez pour qu'il m'explique, il me montre et me fasse rentrer dans cette peinture, et particulièrement dans les grands formats, parce que je ne les aurais peut-être pas compris.
Il y a des tableaux magnifiques de grands formats dans l'exposition.
Merci à tous les deux, Stéphane Covio et Guillaume Sébastien. Qu'est-ce qui se passe à la galerie?
Eh bien, un autre paysagiste, un paysagiste contemporain, très beau, très bel artiste, qui s'appelle Yves Lévesque, qui est un jeune artiste de 87 ans, et l'exposition s'appelle Envol.
On va venir, c'est rue de Penthièvre, à Paris. Merci Cédric Cobat pour la réalisation. Grand merci aussi à Camille Meyer, François Dieudonné, Philippe Malpeuch pour la réussite technique de notre rendez-vous. Demain, c'est mardi, je recevrai Colin Timbert pour son roman Une saison à Montparnasse aux éditions Héloïse d'Ormesson. D'ici là, portez-vous bien. Demain, c'est le printemps. Et oui, tout arrive. Alors, je vous embrasse.